c'est absolument dramatique. Et aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, les populations sont contaminées à plus de 90%, 92-93%. Donc ça veut dire des cancers du sein, de la prostate, etc., etc. Donc l'eau du robinet est contaminée, donc c'est absolument dramatique. Donc le lien avec ce qui se passe ici avec cette fameuse loi-là, la loi du plomb, où on se mobilise aujourd'hui pour qu'elle ne passe pas, ou... c'est qu'il y a déjà eu des précédents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réintroduit des pesticides qui ont déjà causé du tort, eh bien on a un exemple très précis avec le chlordécone de ce qui s'est déjà passé, en fait. De quelque chose qui est interdit, qu'on réintroduit, et qui crée des torts, qui crée des cancers, qui crée des malformations, qui crée avec plus de 92% de personnes aujourd'hui qui sont contaminées. C'est pour cela que lorsque nous avons été contactés pour pouvoir apporter notre soutien, on n'a même pas hésité, parce que ça va de soi. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est... eh bien, c'est les valeurs que nous partageons, c'est qu'est-ce que nous voulons aussi transmettre aussi aux enfants. Je vois qu'il y a des familles qui sont là avec leurs enfants, moi je suis venu avec les miens aussi. C'est qu'est-ce qu'on veut transmettre en fait. Donc quand on parle des sols, des eaux et des mers, il y a tous les enjeux de santé publique. Simplement pour terminer, c'est important de se mobiliser justement pour ce type d'action. L'enjeu, c'est toujours l'impact. En ce qui me concerne, c'est aussi très important l'enjeu de la transmission. Donc, quelles sont les formes de mobilisation que nous mettons en place, qu'elles soient fluides mais radicales. Et donc, je voudrais terminer là-dessus. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces associations? Eh bien, nous avons porté plainte contre l'État, tout simplement. Donc, nous avons fait une action contre l'État. C'est pour dire que c'est possible, même si on sait qu'en principe, l'État n'est jamais condamné. Alors, il y a eu plusieurs actions. Il y a eu des actions au pénal. Au début des années 2000, donc un ensemble de collectifs s'était mobilisé en Guadeloupe et en Martinique. Il faut savoir que jusqu'en 2016-2017, il ne s'est absolument rien passé. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une seconde action en justice en 2019-2020 avec 5-6 collectifs, avec plus de 2000 personnes. Je pense qu'on peut les applaudir, ces 2000 personnes. Parce que l'enjeu, c'est toujours de se mobiliser. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de mobiliser les gens. Donc cette action est toujours en cours, puisque voilà... il faut passer par les différentes strates. Aujourd'hui, je pense au Conseil d'État. Mais voilà, c'est ça l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on se mobilise, quel est l'impact et qu'est-ce que nous voulons transmettre. Aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, les populations sont contraintes aux cultures hors sol. Qui dit culture hors sol dit que l'agriculture n'est pas consommable, en fait, tout simplement. C'est contaminé. Les populations sont contraintes d'aller consommer, on ne va pas faire de dessin, dans les grandes surfaces. On peut parler aussi du coût de la vie qui, en Guadeloupe et Martinique, est hyper cher. Donc voilà, donc c'est important de se mobiliser ici aujourd'hui. Important aussi de rappeler que les formes de mobilisation sont très très importantes pour qu'il y ait un maximum d'impact. Merci.
Je vais passer la parole à Niuma du collectif Association Naya et à Romain de la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne a dit pour soutenir, il faut essayer de manger bio, manger des produits paysans. Mais on sait que ce n'est pas possible pour tout le monde, dans toutes les bourses, il y a plein de freins. Et du coup, c'est aussi une lutte collective. Nous, depuis quelques années, on a lutté sur cette question-là avec l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. Et on a essayé de tester des trucs et c'est ça que Niuma et Romain vont essayer de vous raconter un peu.
Merci Paul. Moi, je suis Niuma, je suis de Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours. Je suis fondatrice d'une association qui est à Saint-Pierre-des-Corps, qui s'appelle Naya, qui accueille tout public sur toute problématique humaine. Notre rêve s'est réalisé quand la Confédération paysanne est arrivée sur nos publics les plus précaires, sur nos publics qui avaient besoin d'une alimentation saine, qu'ils avaient besoin d'être accompagnés sur l'agriculture française. Parce que dans notre association, il y a une diversité de cultures du monde entier. Et ça, on est fiers. Du coup, on remercie les soulèvements de la terre, on remercie toutes les associations, les paysans, les agriculteurs et les agricultrices, bien sûr. Parce que nous, les femmes, on est toujours en avant. Et d'ailleurs, à Naya, c'est une association où il y a 80% de femmes et 20% d'hommes. De toute nationalité, de toute culture, de toute tradition. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on se ressemble beaucoup avec les paysans, les agriculteurs, parce qu'on aime faire la fête, on aime manger bien, on aime cultiver aussi bien. Pour ça, on se ressemble. Donc merci les paysans et les agricultrices et paysannes.
Romain de la Confédération Paysanne, partenaire de cette association Naya. On n'a pas à respecter une assignation à être chacun dans nos quartiers, que ce soit dans la ruralité ou dans la ville, quoi. Et c'est ça qu'on fait aussi à travers ce projet, c'est se rencontrer, voir qu'on a du commun, alors qu'on ne voudrait surtout pas qu'on se rencontre. Et c'est ça qu'on fait avec le sujet de l'alimentation. Tiens, il y a Bernard Charest ici, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'est lui qui l'a dit. Nous ne sommes que ce que nous mangeons, quoi. Donc parlons-en, et parlons-en avec des gens qui sont parfois éloignés de nous dans la vie. Ça aide à faire des perspectives communes. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport au collègue qui est intervenu sur le chlordécone et le colonialisme chimique, évidemment qu'il faut attaquer l'État. Et nous, en tant que syndicalistes, on se bat pour ça tout le temps. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui sont derrière. C'est vraiment le système du colonialisme. La problématique pesticide, c'est vraiment une question colonialiste. Et nous, quand on a nos collègues qui sont dans les DROM, puisque donc on est syndicat et qu'on a nos homologues là-bas qui nous racontent comment ça se passe, et que c'est de l'histoire de France, c'est les béquets, c'est la famille Hayat, tout ça, c'est la continuité de l'État colonial qui est aujourd'hui soutenue par la politique agricole commune et la culture de la banane et de la canne, etc. C'est de là que ça vient tout ça aussi. Et si je disais ça, c'est que, y a des hommes et des femmes qui sont responsables de ça, mais la solution, ça sera nous, faut pas l'attendre du gouvernement, faut pas. Et donc c'est ce qu'on fait ensemble avec ces femmes des quartiers, on peut dire, quoi. Et c'est ça que je venais dire, c'est partageons ensemble, n'attendons rien des autres, quoi, et faisons-le. C'est ça aussi le syndicalisme, l'autogestion et l'auto-organisation, et c'est ça qu'on fait aujourd'hui.
On est aux 40 ans de Tchernobyl, et il y avait une mobilisation qui n'a pas eu lieu parce qu'il y avait ce carnaval et les personnes ont rejoint ce carnaval. Et du coup, un petit mot sur cette question, les 40 ans de Tchernobyl et le nucléaire.
Merci. Je pense que quand même, il y en a beaucoup qui ont moins de 40 ans ici. Or, le 26 avril 1986, dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, survient lors d'un essai technique l'explosion d'un réacteur qui provoque un gigantesque incendie. Les nombreuses conséquences néfastes, les morts, les maladies graves, de personnes dans un rayon de 30 km autour de la centrale, la pollution des sols, de l'air et de l'eau, sont constatées par plusieurs études scientifiques. Ces impacts sont observés hors des frontières. Un taux de radioactivité dû à Tchernobyl plus élevé est constaté dans certaines régions de France, 40 ans après la catastrophe. Et ça va durer encore longtemps. Mais ce désastre ne suffit pas pour faire reculer les ambitions insensées des pro-nucléaires en France. Près de Chinon, qui a donné déjà beaucoup, à Savigny environ et Beaumont environ, une start-up Nucléo a jeté son dévolu pour construire un mini-réacteur qui utiliserait de l'uranium appauvri et du plutonium produit par le parc nucléaire existant. Ce projet pose entre autres le problème de la privatisation du nucléaire dont le coût est estimé de 3 à 6 milliards. Nucléo a besoin de l'investissement public. Déjà, 20 millions d'euros de nos poches à nous ont été engloutis. Quant à la technologie, le collectif de scientifiques Global Chance alerte. Ces réacteurs ne peuvent être fabriqués dans l'état actuel des connaissances. Pour terminer, pour ce carnaval sans loi du plomb et pour le vivant, savez-vous comment seraient refroidis ces réacteurs ?
Avec du plomb fondu !
Avec du plomb. Du plomb fondu à plus de 300 degrés. Alors, stop au nucléaire, non au nucléaire et rejoignez-nous dans cette lutte. Merci.
Ce qu'on voulait dire en mot de conclusion, c'est que pour nous, c'était vraiment une magnifique journée de vous voir tous, toutes, réunis avec nos tracteurs, nos vélos, nos bateaux, notre énergie. Malheureusement, mauvaise nouvelle, je crois qu'une belle journée ne suffira pas à faire tomber le système agro-industriel ce soir. Et donc, c'est qu'il va falloir continuer dans cette lutte. Que là, on voulait rassembler, faire se rencontrer, donner des idées et qu'on avait envie que ça puisse permettre d'aller plus loin, à la fois collectivement, individuellement, mais que ça donne du souffle à cette lutte dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, avec les lois du plomb, lois d'urgence agricole qui arrivent dans les mois qui viennent, en mai-juin, au Parlement. On a préparé un tract. Ces tracts, ils racontent comment, pour lutter contre le système agro-industriel, en fait, il faut une lutte continue, il faut une lutte quotidienne, il faut une diversité tactique et faire alliance, il faut des compositions. C'est comme ça que progressivement, on pourra être de plus en plus nombreuses, on pourra faire reculer ce système agro-industriel, trouver notre autonomie, continuer à agir avec toute notre joie et notre énergie.
Dans ce tract, pour répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle pour lutter contre le système agro-industriel, pour une société plus juste, plus saine. Et peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes moyens et on n'a pas tous les mêmes disponibilités et qu'on n'a pas tous le même espoir de faire changer les choses ou la même volonté d'être dans le souffle qui pourrait ralentir la progression de système agro-industriel qui dévore tout. Et donc on a listé des exemples d'actions simples qui pourraient être à la portée de beaucoup de personnes. Le premier masque qui parle de « je peux agir parce que j'ai soit du temps, soit de l'argent, soit des compétences que je peux partager ». On peut simplement aller aider les agriculteurs, les agricultrices qui sont impliqués pour une agriculture paysanne qui demande plus de temps humain et aller planter des haies avec eux, participer aux récoltes, participer au travail. On peut proposer ses compétences, quelles qu'elles soient, aux associations qu'on souhaite soutenir. On peut aussi se rendre sur le terrain, dans les manifs. Et aussi, si vous avez de l'argent, même un peu, vous pouvez investir, donner, prêter de l'argent dans les luttes qui vous touchent. Le deuxième masque, il parle de capacité en termes des choix quotidiens. On parlait de l'alimentation tout à l'heure. Ça peut être accessible d'aller acheter son alimentation chez les producteurs ou dans les commerces qui favorisent les circuits courts, par exemple. Et aussi dans ses choix d'activité, dans ses choix de sortie, dans des choix de vacances, des choix des week-ends entre copains, on peut orienter les sorties vers des impacts un peu plus positifs. Et enfin, on peut parler de ces sujets autour de nous pour sensibiliser auprès de son entourage et rencontrer les agriculteurs. Quelle que soit leur pratique d'ailleurs, juste parler avec eux, découvrir leur métier, tisser du lien. Faites-vous votre avis, aimez la ferme, enfin tout le monde aimera la ferme, non? Et le dernier masque parle d'influence. Si vous pensez que vous n'avez pas d'influence dans vos communautés, vous en avez certainement plus que ce que vous pensez à l'école, si vous êtes parent d'élève ou instituteur, institutrice, ou si vous travaillez dans une entreprise, il y a des CE ou des choix qui sont faits pour les cantines, les vacances, pour les team building, les séminaires, enfin tout ça, c'est des choses où vous pouvez exprimer vos opinions et peut-être faire pencher la balance. Et vous pouvez aussi aller chercher vos élus locaux dans vos communes, dans vos communautés de communes, leur parler, les solliciter autrement, écrire, faire des pétitions, signer des pétitions, c'est comme ça qu'on interpelle ces élus. Donc voilà ce que raconte ce tract.
Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais. Tu dis que mon maïs est bêta, alors que c'est toi les bêtés. Tu dis que mon maïs marche pas, mais l'essayer, c'est l'adopter. La preuve, au beau milieu d'un champ, j'ai rencontré un papillon qui récitait en titubant un petit message d'information. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais. Pour une fois qu'un truc est total, non sélectif et efficace, toi, il faut encore que tu râles, tout ça pour faire des tortillas. Alors qu'au beau milieu d'un champ, une mauvaise herbe repentie me confiait d'un air confiant, c'est bon de faner pour sa patrie. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais. Completely safe for consumer, nothing to worry about. Y'a pas péril en la demeure, je comprends pas pourquoi tu doutes. Alors qu'au beau milieu d'un champ, j'ai rencontré un ver de terre qui chantait en agonisant un petit message publicitaire. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui, je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais.
Le maïs OGM par La Parisienne Libérée, titre qu'on vous a beaucoup joué pendant les années 2010, avant de revenir à ce carnaval antillois du plomb du dimanche 26 avril 2026, et avant de retrouver Caro du collectif Cancer Colère, que vous aurez aussi souvent entendu dans cette émission. Bonjour Caro.
Bonjour JB.
Quelle belle journée que ce dimanche 26 avril, carnaval. Un peu estomaqué par le monde, hein. Je crois qu'on était un très gros millier, non ?
Et on était extrêmement nombreux dans un contexte incroyable, il faisait beau. J'étais dans le cortège piéton et j'ai pas réussi à avoir de recul sur le cortège piéton tellement j'avais des discussions chouettes avec plein de gens. Et en plus, j'avais oublié pendant le cortège tellement j'étais occupée à papoter. Les autres cortèges, et quand on est arrivé sur le pont et que j'ai vu tous les vélos et les tracteurs arriver, rien que vélos, ils étaient une centaine. Donc si on rajoute les piétons, les tracteurs et les bateaux, je ne sais pas. Mais c'était dingue pour une première et waouh.
Qu'est-ce qu'ils sont venus te dire, les gens qui sont venus te dire des trucs ? Il n'y a pas d'antenne cancer colère en Indre-et-Loire.
Pas encore, et justement, ça a servi à ça notamment aujourd'hui, c'est que dans les gens qui sont venus me parler, il y en a pas mal qui sont venus me dire bah, « je suis du 37, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'antenne et j'aimerais bien qu'il y en ait une. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait une ?» Après, il y a des gens toujours un peu pudiques qui viennent prendre un tract avec un sourire un peu pudique. Ça arrive très souvent. On sent que c'est chargé, que ça leur parle, mais que c'est pas le moment forcément d'y discuter, c'est pas grave. Ça laisse un support, mais on pense que c'est des gens qui potentiellement peuvent revenir vers nous. J'ai beaucoup discuté avec une soignante à la retraite qui m'a dit « j'en peux plus ». Elle m'a dit « j'étais soignante, mais dit, là, de toute façon, je ne pouvais plus faire ce travail-là. Tout ce que j'ai vu, l'épidémie, vraiment l'explosion de l'épidémie qui est en parallèle avec la destruction de l'hôpital, c'est plus possible de travailler, ça met en colère. » Et ce qu'elle m'a dit, elle m'avait montré le tract en me disant « moi, cette colère, je la comprends, je la ressens tout à fait ». J'ai eu aussi des gens de cancer colère des autres départements que j'ai rencontrés pour la première fois, c'était chouette aussi.
Donc 44, 72...
28.
28.
Ouais, on m'a parlé de la Mayenne aussi, qui était dans la boucle, qui a failli passer, mais qui n'a pas pu. Et donc des gens ouais, à qui j'échange depuis un moment, parce qu'on travaille sur les réseaux, parce qu'on est éloigné. Mais,
c'est cool de se voir en vrai.
Mais c'est ça, c'était le moment de se voir en vrai, de se prendre dans les bras. Hein, et ouais, c'est des moments chouettes.
Est-ce qu'il y a aussi eu des personnes, parce que ça, tu dis ça t'arrive tout le temps, qui sont venues te voir en disant « moi aussi, je connais un oncle, une grand-mère, un cousin, un ami ».
Alors malheureusement, oui, c'est presque le plus fréquent. Du coup, j'ai peut-être même oublié de le dire parce qu'en fait, c'est tellement souvent, c'est tellement tout le temps. C'est ça qui est toujours effrayant en fait, c'est de constater qu'il n'y a pas une personne qui ne peut pas dire « autour de moi, quelqu'un est malade ». Et je rappelle que cancer colère ne parle pas que des malades du cancer. L'épidémie de maladies qui sont provoquées par les industriels de la chimie et de l'agriculture. Ça concerne aussi les scléroses en plaques, ça concerne aussi Parkinson, ça concerne aussi des leucémies, ça concerne, quand je parle de leucémie, je parle aussi d'enfants, de bébés qui naissent malades, d'enfants qui tombent malades, et que toutes ces maladies-là ont un lien avec l'empoisonnement chimique.
Je suis contente de retomber sur toi aussi aujourd'hui parce que je voulais te remercier et remercier le collectif Cancer Colère par ta personne. Mais il y a ce truc cognitif un peu, enfin Rachel Carlson nous disait dans Printemps silencieux déjà dans les années 60 et tout autour de nous, là je pense notamment à trois personnes assez proches, des copines, des copaines, voilà, trois d'un coup en 2023 si je me souviens bien, ou 24 je sais plus, enfin de toute façon ça s'enchaîne et je voulais te remercier parce que tu m'as aidé à me mettre les yeux en face des trous et tu le dis très bien dans la précédente conversation qu'on a eue, donc c'était pour les 3 ans de Sainte-Soline, organisée par Bastille Montmercy fin mars à Mel. Tu m'as aidé à comprendre ce que j'avais déjà compris ou ce que j'avais pas envie de comprendre, et peut-être à regarder vraiment les choses en face. Enfin, et tu le disais très bien dans l'émission, c'est que nos cerveaux, ils sont pas conçus forcément pour concevoir des énormités criminelles. C'est bien de ça, en fait, ils sont en train de nous empoisonner. Et j'arrête pas de penser et d'en parler avec des gens, avec mes parents, avec des amis. Voilà. Et tu parlais dans l'émission aussi des lunettes du genre. Des fois, quand on prend conscience de certaines réalités, et je suis encore loin du compte, mais c'est vrai que quand tu commences à chausser des lunettes, alors là, des lunettes des trucs encides, bah finalement, tu vois plus que par ça et te dire, mais en fait, c'est partout. Et là, ce dont tu nous parlais lors de notre précédente conversation, c'était pas de la planète Mars ou du fin fond de la galaxie, en fait, c'est nos copaines, nos amis, nos familles, nous-mêmes. Potentiellement, tiens, je touche cette table en bois pendant que je te parle. Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose. Et en tout cas, voilà, merci pour cet effort de pédagogie et d'éclairage.
Bah, moi, j'ai envie de dire évidemment merci à toi, puisque pour qu'on puisse aider justement les personnes comme toi ou n'importe qui d'autre à chausser ses lunettes, ça demande de la pédagogie, de l'information, c'est ce qu'on essaye de faire. Notre rôle à Cancer Colère, c'est de faire de l'information, d'aider les gens à comprendre, et que pour qu'on puisse faire ça, ça demande des gens à l'écoute. Tu m'as permis d'expliquer ça, et que je remercie tous les médias, les journalistes de presse, de radio, vidéo, il y en a aussi, qui sont là pour ça, pour nous offrir cet espace, pour avoir le temps d'expliquer. Il faut expliquer. Ça peut pas être évident, c'est complètement absurde, c'est tellement absurde ce système. Comment on peut imaginer que des gens, les mêmes, sur tous les sujets, produisent des problèmes, offrent les solutions qui vont avec, touchent du pognon sur tout le bout de la chaîne, et qu'à la fin il y a des morts, et c'est normal, et on a des élus qui sont élus pour nous protéger, des décideurs publics, représentants de la nation, qui sont contents d'appuyer sur des boutons pour voter, pour continuer ce système-là. C'est absurde, on ne peut pas comprendre ça. Parce qu'on parle de Bayer-Monsanto, ce n'est pas les seuls. Monsanto-Bayer, qui est la même entreprise qui produit des pesticides et qui produit les médicaments anticancéreux, qui touche de l'argent sur tout le bout de la chaîne, de l'argent public. Hein.
Pour mémoire, hein, Bayer, c'est ceux qui fabriquaient les Zyklon B,
également,
dont se sont servis les nazis par l'extermination de tous ces gens qu'ils n'aimaient pas. Et Monsanto, c'est eux, ils fabriquaient l'agent orange, donc un défoliant que les Américains utilisaient comme arme de guerre au Vietnam. Et les deux ont fusionné, c'est formidable, et ils continuent à se faire du pognon sur notre dos.
Et c'est toujours les mêmes. Je pensais à l'eau, qui est un sujet primordial et urgent. Quand on voit le niveau de potabilité de l'eau en France, on n'est pas au tiers monde. Enfin, on a l'impression d'avoir de l'eau, enfin, on n'a plus d'eau potable en France. Et quand on a de l'eau potable, pourquoi, comment elle est potable? Parce qu'on la potabilise. Et comment on la potabilise? Avec des filtres qui sont fabriqués par la même entreprise qui fabrique les pesticides qui polluent l'eau. Donc c'est tous ces cycles complètement vicieux, absurdes et mortifères qu'on est obligé de dénoncer et d'expliquer parce qu'on ne peut pas spontanément se dire que c'est possible et qu'on fait ça. On pourrait se dire, bon ok, ça existe, il y a des industriels en cachette, ils ont fait ça. Mais on va le dire et puis le gouvernement va dire, stop les gars, on vous a découvert, ce que vous avez fait c'est n'importe quoi, on arrête. Bah non, là en fait on a des élus qui disent, mais c'est très bien et on va continuer et on va vous aider à continuer. Et donc ça se passe au niveau des pesticides, des cancers, on parlait de Bayer-Monsanto. Et donc pour l'eau c'est exactement la même histoire, la loi d'urgence agricole qui est en train d'arriver, c'est ce qu'elle continue à faire, de protéger l'accaparement de l'eau et la pollution de l'eau, et qui permet à des entreprises de gagner sur toute la chaîne. En fait, c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que, encore une fois, on ne parle pas d'autres gens, c'est qu'en fait, là, le problème de qui paye la facture, c'est les gens qui écoutent cette émission, ce sont les malades, ce sont les précaires, à qui on demande, que ce soit par le biais de la sécurité sociale ou parce que les soins, quand on est malade, on paye plein d'autres choses, c'est eux qui payent à la fin. Quand on demande aux gens de payer le trou de la sécurité sociale, on ne demande pas à Bayer de le faire. On vous demande à vous qui écoutez l'émission de le faire. Et c'est exactement la même chose pour l'eau. Qui paye la facture de dépollution de l'eau? Regardez les factures qui ont augmenté de 16% je crois l'année dernière et qui continuent d'augmenter. On est en train de payer, vous qui écoutez l'émission, êtes en train de payer la facture de la dépollution pour payer les gens qui ont pollué l'eau et qui la dépollutionnent également. Enfin, c'est comme ça sur toute la chaîne, sur tous les sujets.
Je suis tombé sur un écueil plusieurs fois depuis qu'on a discuté, puisqu'en fait j'en ai beaucoup parlé autour de moi, et il y a un écueil qui surgit régulièrement. Alors là, on revient sur ce truc cognitif de comment accepter cette monstruosité et se dire que si, en fait, c'est ça qui se passe. C'est des gens, pas forcément mal intentionnés, qui disent oui, mais les scientifiques n'ont pas encore établi le rapport qu'il y a entre tous ces trucs en cide et les maladies, là, donc cancer, Parkinson, sclérose en plaques aussi. Et tu as des gens en toute bonne foi qui disent oui, mais bon, or, on a parlé, il y a l'ordre du conseil des médecins, etc. Le lien scientifique, tu peux nous la pédagogie étant l'art de la répétition. Ouais. Est-ce que tu peux bien nous reconfirmer que si le lien, il a scientifiquement été établi? Et accessoirement, qu'est-ce que tu as pensé de la prise de parole des deux scientifiques? Il y avait un scientifique tout à l'heure et puis un toubib.
Ouais.
Qu'as-tu pensé de leur prise de parole?
Par rapport aux scientifiques, alors l'art de la répétition certes, cependant il s'est passé quelque chose entre nos deux entretiens. L'étude, cofinancée par l'Institut Pasteur, c'est en Amérique du Sud. Déjà, au départ, ça fait 60 ans que les scientifiques ont compilé, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Grand-Collas du CNRS, il dit, depuis 60 ans, on a compilé 30 000 pages d'études qui constatent le lien entre les pesticides et les maladies. Ça paraît évident, mais il dit, nous, ça fait 30 000 pages de compilés depuis des décennies, il dit, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Après, si les gens ont besoin de détails, on peut aller voir les études de l'INSERM, on peut aller voir les avis du CNRS, on peut aller voir, même ça le confirme. En fait, tous les instituts et les centres de recherche le constatent. Ce qu'on disait jusqu'à il y a deux semaines, c'est que ce constat ne pouvait pas être une démonstration mécanique parce que ça demanderait des études, de compiler beaucoup trop de choses, qu'il y a l'effet cocktail à prendre en compte et qu'en fait ça demande des calculs qui sont tellement gigantesques. En fait, le lien mécanique de cause à effet était vraiment difficile à montrer, à prouver. Et en fait, les industriels s'appuient là-dessus. En fait, ils font dire à ces scientifiques, ce n'est pas prouvé. En fait, ce qu'ils disent les scientifiques, c'est en épidémiologie, quand on dit, on constate, il y a un lien, pour nous, en fait, c'est sûr. Mais alors, la petite blague, c'est qu'il y a à peu près deux semaines, il y a une étude qui a été faite en Amérique du Sud. Donc, je crois que c'est au Pérou. C'était cofinancé par des scientifiques de là-bas, cofinancé, mené par des scientifiques de là-bas, et de l'Institut Pasteur, me semble-t-il, en France. Ils ont réussi à montrer, là pour le coup, à prouver mécaniquement le lien entre l'augmentation de cancer corrélé avec l'augmentation de l'utilisation des pesticides là-bas. Et là, en fait, ça pose un truc qui est complètement énorme. Ça va de pair, parce que donc ça, c'était il y a une quinzaine de jours. Et donc là, il y a 2-3 jours, il y a une vingtaine de scientifiques qui a signé une tribune dans une revue scientifique. Les revues scientifiques, c'est pas fait pour faire de la politique, c'est fait pour qu'entre chercheurs, ils publient des recherches, et voilà, c'est pas du tout fait pour ça. Et là, les gars, ils en ont tellement marre, en fait, qu'on les écoute pas. C'est inédit, c'est la première fois que ça existe. 20 scientifiques qui ont signé une tribune, qu'ils ont fait paraître dans la revue, je crois que c'est Science, c'est une revue de chercheurs, quoi. Est-ce qu'ils ont dit stop, quoi ? On en a marre, nous, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit. Là, c'est trop grave, en fait, ce qui se passe en ce moment. On arrive à un point, non seulement du seuil d'épidémie qui est trop grave, mais surtout au regard des lois qui sont en préparation et qui vont ne faire que non seulement aggraver le problème, mais surtout rendre la prévention impossible et discréditer le discours scientifique et discréditer les instances démocratiques en les contournant. Et ces scientifiques se sont dit stop, et ils ont fait ce truc complètement dingue et inédit de faire paraître ça. Parce que des scientifiques qui se prononcent, on en voit tous les jours. Ils viennent nous voir ou ils publient dans la presse, mais dans la presse généraliste, pour dire que c'est pas possible de continuer comme ça. Mais là, c'est dans une revue scientifique. Et ça, c'est inédit et c'est hyper important de le marquer. C'est un tournant. Ça montre qu'on est vraiment dans une impasse et au pied du mur, mais ça montre aussi qu'on n'est pas seul et qu'on va se battre, quoi. Et ton autre question, c'était par rapport à l'intervention de SER.
Scientifique en rébellion.
C'était super chouette.
C'est ce qu'il a dit. Enfin, le gars qui a mis une blouse blanche en disant, voilà, je mets une blouse blanche pour montrer que je suis scientifique. Il a dit, mais on nous écoute pas. On en a ras-le-bol de crier dans le désert.
Exactement. Et en fait, nous, ce qu'on reçoit beaucoup comme témoignage, qu'on reçoit quand même des témoignages de beaucoup de scientifiques, notamment des médecins, mais aussi des chercheurs et notamment du CNRS. Il y en a qui sont connus pour témoigner publiquement, mais il y en a beaucoup qui nous contactent en disant qu'ils ne peuvent pas se permettre de le faire publiquement, d'où le manque que regrettait aussi donc un des camarades de SER tout à l'heure.
Fait. SER, scientifique en rébellion.
Scientifique en rébellion, qui disait on aimerait bien avoir plus de blouses blanches ici, mais certains simplement ont peur pour leur poste. Et les chercheurs qui craignent de montrer leur visage, ils n'ont pas peur pour leurs fesses, ils ont peur pour leur recherche, parce que justement leur travail est important. Et qu'en fait, là, on est dans un moment un peu trumpiste, où il y a des chercheurs qui ont peur pour le financement de leurs recherches, qui sont, elles, hyper importantes, et qui donc viennent témoigner et nous soutenir. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent « continuez, merci, parce que nous, on ne nous écoute pas. On a été obligés de vous voir, vous, malades, vous lever pour porter ce qu'on dit. Mais continuez et surtout ne faiblissez pas, c'est ce qu'on a entendu encore récemment. » Et c'est super important. Ça nous rassure s'il le fallait, mais en même temps on doute toujours, hein, on a toujours besoin de vérifier qu'on ne dit pas de conneries. Hein, parce que... Donc nous, ça nous rassure quand on a ces témoignages-là, et en même temps c'est complètement flippant de se dire qu'on est à un tournant trumpiste. Trumpiste quand on regarde Omnibus, trumpiste quand on regarde la LUA, et trumpiste quand on entend ces témoignages de scientifiques qui ont peur pour leur crédit recherche. Quoi.
LUA, donc loi d'urgence agricole, oui. Il nous promet plein d'horreurs. Quitte à prendre le risque de sauter du coq à l'ail.